Salut à toutes et à tous, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Cette semaine, à Point de vue, on gambade à travers le pays, on retrouve Marine Togali à Toronto qui nous parle d'un projet de quartier francophone.
Les Grecs ont leur quartier sur Danforth, les Chinois sur Spadina, les Polonais sur Dundas, où il y a plusieurs groupes ethniques. Mais si on dit on s'en va au quartier français, il n'y a pas.
Le télétravail n'est pas un droit, mais un privilège et des municipalités réglementent pour l'affirmer.
On a défini les règles, par exemple, d'un maximum de 2 jours semaine. Il doit y avoir aussi des présences au bureau parce qu'il faut travailler en équipe. Il y a des échanges qui doivent avoir lieu où tout le monde est présent.
11 baleines s'échouent sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. 3 y survivent. Et les jeunes se distinguent à travers le pays. La première se voit offrir une bourse de 10 000 $ pour un texte qu'elle a écrit.
Il fallait que ce soit à peu près 800 mots. Il fallait que tu aies un bon français parce que c'est ça là avec les points, que ton texte soit engageant. Et que ça, tu sais, ça a l'air comme si que tu trouvais qu'il avait écrit, c'est qu'il y ait de la créativité dedans.
Et les Métis du Manitoba fêtent comme il se doit leur grand rassemblement aux abords de la Rivière Rouge.
Trop longtemps, ça a été mal vu d'être Métis, c'est même honteux d'être Métis. Alors aujourd'hui, on a surpassé cette période noire, si vous voulez.
Ceci est bien plus à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci de nous accompagner. On lance notre périple au Québec en Basse-Côte-Nord, où les travailleurs québécois, comme ailleurs au pays, ont découvert durant la pandémie les joies du télétravail. Certains employeurs estiment, parfois peut-être même un peu trop, et la tendance n'épargne pas les petites municipalités jusque sur la côte nord du Québec, à plus de 500 km de Montréal. Des municipalités qui, face à la popularité de la formule, ont dû réglementer et mettre en place des politiques institutionnelles pour rappeler à leurs employés que de travailler à la maison n'est pas un droit, mais un privilège. La MRC de la Haute-Côte-Nord, qui vient d'adopter sa politique sur le télétravail, Maxime Jaudoin, est aux escoumins. Il en parle avec la préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil.
On sait très bien que le télétravail, dans les dernières années, dans le cadre de la COVID, hein, ça a été, je dirais, expérimenté. Et il en ressort quand même des points extrêmement favorables. Donc, il y a des demandes à cet effet-là. Et on a décidé, comme conseil des maires, de se doter d'une politique pour venir encadrer le télétravail. Alors, on est au rendez-vous dans le sens qu'on reconnaît que ça peut être une formule qui réponde à des besoins, qui soit aussi attractive et qui nous permette de faire peut-être une plus grande rétention de notre personnel. Mais encore faut-il qu'il y ait un cadre de référence, un encadrement des règles qui s'appliquent et qui viennent reconnaître que le télétravail, c'est pas un droit acquis, c'est un privilège que la direction peut accorder selon le poste de la personne, les responsabilités, le travail qui peut être fait. Alors c'est dans une politique globale qu'on a défini les règles. Par exemple, d'un maximum de 2 jours semaine. Il doit y avoir aussi des présences au bureau parce qu'il faut travailler en équipe. Il y a des échanges qui doivent avoir lieu où tout le monde est présent. Alors, voilà, tout ça a été contenu donc dans une politique pour que ça soit connu de tous et que nous soyons aussi équitables dans les décisions face aux demandes que pourraient nous adresser nos employés. Les gens qui préfèrent travailler au bureau pour avoir une plus grande concentration, pour travailler en équipe, il y a d'autres personnes où leur travail permet d'être à la maison, par exemple, pour faire de la rédaction. Et encore faut-il avoir, évidemment, à la maison, un environnement de travail qui soit adéquat. On parle d'espace, on parle d'équipement nécessaire. On parle aussi des règles de confidentialité qui sont très importantes. Alors, on a tout contenu ces règles-là à l'intérieur d'une politique de télétravail.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
francophonie de Toronto ne serait pas ce qu'elle est, nous apprend-on, sans M. Pierre Gravel. M. Gravel qui a, au fil de sa vie, contribué à mettre en place un nombre impressionnant de projets et d'institutions. Et il n'a pas fini. Pierre Gravel est l'un des 12 fondateurs du Centre Accueil Héritage. Se lance, après de longues années dédiées à la francophonie à Toronto, dans la création d'un quartier francophone. Ce projet, il ne l'a pas simplement sorti de son chapeau, il l'a bien réfléchi, car il repose sur une étude de la géographie du quartier, où sont déjà rassemblés, nous fait-il remarquer, plusieurs lieux clés de la francophonie ontarienne torontoise. La création possible de ce quartier fédérateur repose aussi sur le geste fort de changer le nom d'une station de métro actuellement en construction. Marie Notogali est à Toronto, y a recueilli ses commentaires.
Les Grecs ont leur quartier sur Danforth, les Chinois sur Spadina, les Polonais sur Dundas ou comme dans ces environs-là. Il y a plusieurs groupes ethniques qui ont un endroit qu'on dit, on s'en va manger ce soir dans le quartier de temps. Mais si on dit on s'en va manger au quartier français, il n'y a pas. Puis il y a beaucoup de bons restaurants français dans Toronto. C'est le gros péché, c'est que la majorité des francophones parlent anglais. Donc pour eux, c'est pas comme les Grecs qui arrivent ici, qui parlent juste un petit peu anglais. Ça y fait du bien d'être dans un district. Mais nous, qu'importe, on est rendu au point que les choses qui se sont élevées depuis quelques années, mais ça nous a ouvert les yeux de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour assembler, pour certaines occasions, les francophones et les francophiles. Parce que pas loin de chez nous, hein, à deux pas d'ici, il y a le Collège Boréal qui commence au mois de septembre. À moins d'un kilomètre, on a l'Université Toronto française. Ici, de l'autre côté de la rue, on a le Théâtre français de Toronto. On a l'église Sacré-Cœur qui est pas loin. On a le centre francophone qui est sur Richmond. Donc, on a toutes ces choses-là. On voudrait que la bâtisse ici, avec sa grande tour en avant, avec une inscription de Place Saint-Laurent, centre francophone, qu'on devienne le catalyseur de cet endroit-là. J'ai même contacté moi-même un de mes amis qui a deux restaurants dans les Laurentides, au Québec, pour voir s'il aimerait ça ouvrir quelque chose ici sur la promenade, sur l'esplanade, parce que ce serait l'endroit idéal pour ouvrir 3-4 bistrots francophones, parce que là, il y a la station de métro aussi. Là, une des raisons pourquoi on s'est groupé, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit francophone ici, on aimerait changer le nom de la station qu'ils ont choisi. La station va être prête juste dans quelques années, mais ils ont choisi le nom de Corktown.
Changer le nom de la station à venir, c'est un objectif qui demande d'avoir le bras long. Mais le projet de quartier francophone qui est en train de se mettre en place comprend déjà quelques partenariats, comme par exemple avec le centre Jamy, qui se situe à quelques mètres du CAH dans le quartier de l'Esplanade et qui propose déjà des activités pour tout le quartier. Pierre Gravel a déjà projeté avec ce centre de sortir la fête du 14 juillet hors des locaux du CAH pour le faire dans un parc situé juste derrière. Et quand on demande à Pierre pourquoi le CAH devrait être le cœur du quartier francophone, la réponse tombe sous le sens.
C'est parce qu'on est déjà 200 personnes de francophones qui sont ici, c'est beaucoup. Puis c'est 200 personnes de toutes les familles. Ça veut dire que c'est pas juste 200 personnes de la rue qui sont francophones. On est 200 personnes, comme moi j'ai une famille de 16. Donc, faire des activités pour les familles. S'il y avait un bistrot français qui s'ouvrirait demain, il y aurait sa clientèle le lendemain. Alors, c'est vrai.
C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiative Journalisme Local.
Bonjour, ici Julie Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Dirigeons-nous maintenant vers l'est du pays où Daniel Aucoin nous attend. Il nous apprend qu'une nécropsie sera pratiquée sur 8 des 11 baleines globicéphales qui se sont échouées à Port Hood, à quelques 100 km de Chéticamp, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. 5 jeunes garçons de la région de Judique ont aperçu les 11 baleines échouées. Owen Campbell, Kieran McDonald, Aidan McDonald, Lucas McDonald et Hunter McDonald, on s'imagine qu'ils sont de la même famille, en tout cas les 4 derniers, ont immédiatement pris l'initiative de tenter de les remettre à l'eau. Ils ont réussi à en sauver 3, dont un bébé, les baleines qui ont pu regagner le large. mais les citoyens continuent de surveiller la côte pour éviter que les baleines qui ont survécu ne reviennent s'échouer au même endroit. Les détails avec Daniel Aucoin en Nouvelle-Écosse.
Victoria Wiseman, agent de communication pour Pêche et Océans Canada, indique que des agents des pêches étaient sur place et sur l'eau pour surveiller un groupe de 26 baleines repérées entre l'île de Port Hood et le continent. Des agents des pêches ont guidé ce groupe hors de la zone et plus loin en mer. On ne sait pas si les 3 baleines qui ont été secourues ont pu rejoindre le groupe. La porte-parole précise que les baleines sont connues pour s'échouer individuellement ou en groupe de temps à autre. Bien que le phénomène ne soit pas bien compris, l'échouage de groupes de baleines n'est pas rare dans le monde. On apprend que les échouages collectifs de baleines, qu'ils soient massifs ou réguliers, peuvent avoir diverses causes, de la pollution aux collisions avec les navires, en passant par la pêche, les maladies et autres. On rapporte que les baleines pilotes ont une structure sociale très serrée. Ces baleines ont une cohésion sociale incroyable. Peu importe la cause de l'échouement d'une d'entre elles, l'ensemble du groupe va rester solidaire et la suivre. Le ministère des Pêches et Océans tient à rappeler au public le danger d'aider les mammifères marins échoués. S'il est spontané de vouloir porter assistance à une baleine en détresse naturelle, la remise à l'eau n'est pas un geste banal et l'on peut causer plus de mal que de bien. Les baleines sont des animaux sauvages de grande taille et dont le comportement peut être imprévisible, surtout dans cette situation. Les manipulations augmentent le stress et diminuent les chances de survie de l'animal.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et place à la jeunesse maintenant avec deux reportages qui nous viennent du Québec et du Nouveau-Brunswick. Au Québec d'abord, où Charlotte Gagnon, une élève de 5e année de l'école Saint-Luc de Forestville, vient de participer à la finale de la réputée dictée PGL à l'Université du Québec à Montréal. Charlotte dit avoir vécu une expérience inoubliable lors de cette grande finale internationale de la dictée Paul Gérin La Joie, PGL, où elle représentait la région de la Côte-Nord aux côtés de francophones et de francophones du monde entier. Elle qui s'y tenait un crayon à la main parmi 75 jeunes qui provenaient de partout au Canada. Et puis, sa dictée, elle a été lue par nul autre que le ministre de l'Éducation du Québec lui-même, Bernard Drainville. Notre journaliste Maxime Jaudouin est de tous les combats. Il est en compagnie de Charlotte Gagnon, une élève de 5e année de l'école Saint-Luc.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Charlotte, tu as vécu une expérience là, extraordinaire dans cette belle finale-là. Est-ce que tu peux tout d'abord me décrire un peu comment tu t'es sentie cette journée-là?
Au début, j'étais un peu stressée parce que il y avait beaucoup de monde puis j'avais peur de manquer des mots puis de mal écrire.
Oui, ça se comprend. Tu as remporté la finale locale de ton école et là, tu représentais la Côte-Nord parmi 75 jeunes de partout au Canada. Comment tu t'es sentie, ta première réaction de côtoyer des gens qui venaient du Sénégal et du Maroc, entre autres?
Ben, au début, c'était mes amis, mais je comprenais pas trop ce qu'ils disaient parce qu'il y avait un accent.
Il y avait un accent. Est-ce que tu as trouvé que ces gens-là étaient aussi bons dans ce qu'ils faisaient?
Ouais.
Ouais, quand même, excellent. La dictée finale auquel tu as participé, là, on mentionne que c'est une dictée qui avait des difficultés grammaticales assez importantes. Pour toi, performer, est-ce que ça a été dur ou si ça s'est fait là, assez facilement?
La dictée était... moi, je trouvais qu'elle était dure, là, fait que j'ai fait de mon mieux.
Tu t'en es bien sorti?
Ouais.
Et il y a eu un autre cadeau aussi, si je peux le dire comme ça, parce que la dictée était lue par le ministre de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drainville. Est-ce que tu le savais, ça, toi, au départ, ou si ça a été une surprise d'apprendre que ta lettre allait être lue par une personne importante au Québec?
Déjà, elle qui est allée l'année passée, elle me l'avait dit que c'était une personne importante, mais je ne savais pas c'était qui.
Est-ce que tu as senti une pression de plus de savoir que ta lettre allait être lue par une personne importante? Est-ce que tu t'es dit « je dois mieux performer » ou si dans l'ensemble, tu as réussi à bien gérer ça?
C'était un peu dur parce qu'il lisait vite.
Charlotte, pour bientôt terminer, tu as visité le Centre des sciences de Montréal en plus d'avoir reçu le logiciel Antidote comme prix de participation, un logiciel bien connu dans le monde du français. Dis-moi, est-ce que tu as aimé la ville de Montréal?
Oui, c'était très gros, puis il y avait plein de magasins avec toutes sortes de choses qu'on n'avait pas ici.
Est-ce que tu as eu le temps, justement, de visiter certaines boutiques de la ville de Montréal, entre autres des boutiques de vêtements ou encore des boutiques d'effets scolaires? Est-ce que tu as eu le temps de faire ça?
Non, mais quand que je me dirigeais pour aller à l'université, ben je suis arrêtée à un magasin de crème glacée, de yogourt glacé, là, puis c'était super bon.
Oui, ça se prend très bien. Charlotte, est-ce que tu aimerais, toi, plus tard, visiter ou encore habiter la ville de Montréal, ou si la grande ville, présentement, là, c'est trop gros? Comment tu vois ça?
Ben je trouve que c'est un peu trop gros, mais j'aimerais ça habiter, mettons, dans une ville genre Longueuil, là.
Charlotte, présentement, quelles sont tes matières préférées? Est-ce que c'est le français? Comment est-ce que tu vois ça, l'école, présentement?
Ben, je trouve que c'est bien, puis ma matière préférée en ce moment, c'est l'anglais.
Oh, l'anglais, OK. Et le français, est-ce que ça vient ensuite ou les deux pareils?
Ça vient ensuite.
Charlotte, merci beaucoup de ta participation. Et là, pour toi, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? Là? On s'enligne comment?
Il va y avoir beaucoup d'examens, qu'on en a déjà fait deux ou trois, là, puis c'est ça, là.
Est-ce que t'es prêt à les affronter?
Ouais.
Super, super. Charlotte Gagnon, merci beaucoup. Et évidemment, on souhaite que le succès là, puisse continuer d'arriver pour toi. Merci encore une fois.
Merci.
Et là, on monte en grade pour rejoindre une élève de la 12e année qui a reçu un beau coup de pouce de la part des organisateurs du concours national de rédaction. Il s'agit d'un événement pan-canadien qui décerne des bourses de 1 000 à 20 000 à des centaines de Canadiens au pays. Originaire du Cameroun et installée au Nouveau-Brunswick depuis qu'elle a l'âge de 6 ans, Camille Kouaté va donc graduer de l'école Marie-Gaétane de Kedgewick au Nouveau-Brunswick et poursuivre ses études à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse avec à la clé une bourse de 10 000 en poche. En lisant ses courriels le 23 mai au matin, Camille Kouaté a appris que son texte, intitulé « L'engin des tendances », avait été primé dans le cadre du concours national de rédaction 2022-2023. Son texte parle de musique, de création artistique et du rôle que la technologie y occupe. L'écriture épurée de Camille Kouaté aurait séduit les jurys. Maxime Gauthier l'a rencontré.
On devait parler de l'impact de la connectivité sur la musique et les musiciens, comment que le processus est différent, comment c'est influencé. Moi, j'avais donné des exemples comme les tendances TikTok, puis des chansons qu'on regarde à la télé, comment que ça peut faire un boost. Dans l'année passée, c'était plus difficile d'aller rejoindre du monde facilement. Du coup, c'était vraiment parler de la connectivité. Comment que quand tu es capable de manipuler cet engin-là, tu peux vraiment avoir des nombres records. Là. Ouais. La langue française, c'est une langue importante, puis surtout dans le domaine professionnel. T'sais, moi, je veux aller dans la santé, c'est rare que le monde peut être servi en français. Fait que je vais vraiment faire de ma part, puis promouvoir le français, essayer de participer à toutes les activités que je peux.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca et suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI.
Les Métis du Manitoba se préparent à célébrer leur histoire et leur culture lors du pique-nique annuel des Métis de Winnipeg au Manitoba. Le pique-nique annuel des Métis, également connu sous le nom de Grand Rassemblement des Métis, est une célébration vibrante de la culture et de la communauté. Il se tient au parc Whittier, près du Fort Gibraltar. Le samedi 17 juin, l'événement réunit les Métis de la Rivière-Rouge surtout, mais pas seulement. L'invitation est ouverte à tout le monde. Paulette Duguay, présidente de l'Union nationale Métis de Saint-Joseph au Manitoba, souligne que cet événement joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'identité du peuple Métis et dans la promotion de la diversité. Fondée le 17 juillet 1887, l'Union nationale Métis revendique être la doyenne des organisations Métis au Canada. Imane Elagi parle avec Paulette Duguay de ce grand rassemblement annuel.
Pendant plusieurs décennies, trop longtemps, ça a été mal vu d'être métisse. Ça a été même honteux d'être métisse. Alors, aujourd'hui, on a surpassé cette période noire, si vous voulez. Mm-hmm. Et puis, on réclame notre fierté de notre culture. Donc, il y a des gens qui découvrent qu'ils sont métis, et puis, mais ils sont pas tout à fait certains ce que ça veut dire, parce que dans leur famille, ça a été caché, ça a été renié. Donc, oui. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont ravis de pouvoir s'identifier à ça, donc que ça résonne pour eux. Et puis, ils veulent vraiment ancrer ça dans leur quotidien, puis dans leur identité. On se rend compte que de plus en plus l'identité est tellement importante. Et puis, le pique-nique, bien, c'est juste, ça sert à renforcer ça. C'est quelque chose de très subtil, mais ça donne un sens d'appartenance. Et puis, les gens se retrouvent. Ils se reconnaissent quand ils viennent chez nous. Ils se reconnaissent, puis ils sont contents. Ils se placent. Donc, c'est un très beau outil pour renforcer l'identité et puis de faire valoir la culture aussi. À tout le monde, tout le monde sont invités.
Les amateurs de musique country seront servis lors de la 37e édition du Festival Country de Wendover, qui se tiendra du 12 au 14 juillet prochain. Près d'une centaine de bénévoles travaillent à l'organisation de cet événement annuel. Le festival que pilote le Club Optimiste de Wendover met en vedette plusieurs groupes de musique et des artistes country de la région, bien sûr. Le festival accueille aussi des résidents de soins de longue durée. Le festival qui tient sa journée pour les aînés et qui leur ouvre donc les portes du festival gratuitement. Notre correspondante Rose Grisland discute avec Huguette Hutt, membre du comité organisateur du Festival Country de Wendover en Ontario.
Le festival de Wendover a débuté, comme vous savez, 37 ans passés par des bénévoles du village qui ont tenu à implémenter le Festival Country. Et de là, ça a évolué à chaque année. Et maintenant, on est à notre 30e édition. Puis nous, qu'est-ce que les gens aiment beaucoup aussi, on a gardé plutôt l'aspect francophone, garder les valeurs aussi comme le folklore. Puis on essaie de plaire à les gens, tous les différents groupes d'âge, donc des plus jeunes allant jusqu'aux plus vieux, soit chansons francophones ou côté anglophone aussi. On a des chanteurs pour les personnes plus âgées comme des groupes pour les plus jeunes aussi. On essaie de garder ça chaque année comme ça pour plaire à tout le monde. Entre le jeudi et le dimanche, nous avons, je pense, 24 spectacles au total. Fait que je crois que cette année, si la température est belle et de notre côté, nous devrons avoir un grand succès.
Et les cyclistes qui affectionnent les 70 km du sentier récréatif de Prescott Russell en Ontario auront de quoi se réjouir. L'OBNL du sentier Prescott Russell qui gère ce parcours mettra à disposition du public une dizaine de vélos électriques en mode location. L'organisme Prescott Russell qui travaillera au cours de l'été d'ailleurs au développement de l'écotourisme dans la région et à la préservation des espaces verts du circuit, notamment par la plantation d'arbres. Mélissa Woodbury est à Cornwall, en Ontario. Elle a recueilli les commentaires d'Éric Collard, directeur général de l'organisme.
Là, maintenant, on peut vraiment offrir des programmes, des événements, faire des partenariats avec les communautés pour essayer de remplir de plus en plus de besoins de la communauté. On veut vraiment être axé sur la promotion de la santé, soit physique et mentale, pour que le monde soit capable de sortir de leur chez eux en façon sécuritaire. On travaille de plus en plus avec les municipalités d'Ottawa, de Rigaud et toutes les municipalités de la région pour être sûr qu'on a un bon lien et de faire des sentiers qui se lient à d'autres sentiers pédestres ou des sentiers pour le cycliste.
Musique toujours pour vous parler du concours de chansons qu'organisait l'organisme sans but lucratif Econova Éducation autour de la thématique des changements climatiques. Econova Éducation qui travaille à sensibiliser et à éduquer les jeunes au sujet de l'écologie. Un concours où la jeunesse canadienne, francophone et anglophone est invitée à créer une chanson sur le thème de l'environnement. Les gagnants pourront enregistrer leur chanson dans un studio professionnel. Le jury délibère au moment où l'on se parle. Caroline Malzuc, animatrice, et Aloïs Gallet, cofondateur de Econova Éducation, nous expliquent que cette initiative sert à faire en fait de ces jeunes de véritables acteurs du changement. Ils sont en compagnie d'Adèle Gros-Perrin.
C'est un concours pan-canadien, donc vraiment ouvert à tout le Canada. Dans la langue de leur choix, français, anglais. On accepte, on encourage aussi les participants à utiliser les langues des Premières Nations pour communiquer certains concepts, certains mots. Une particularité du concours, c'est aussi qu'on demande aux participants de nous fournir un transcript, donc en fait les paroles de leur chanson, parce que ce que l'on veut, c'est vraiment pouvoir étudier, les faire s'écouter les uns les autres dans le texte. La jeunesse, c'est une partie importante de notre population, hein. Si on prend tous les jeunes, plus la génération des milléniaux, c'est la plus grosse cohorte au Canada, donc de Canadiens. Et pourtant, ils ont soit pas la parole parce que trop jeunes, soit ils sont peu impliqués dans un certain nombre de discussions. Là, voilà, c'est vraiment l'occasion pour cette catégorie de jeunes de leur donner la parole, de leur faire dire ce qu'ils ont à dire, et puis de demander aux plus anciens de les écouter, de créer une meilleure discussion.
C'est de rendre les jeunes acteurs du changement à travers l'art qui puisse inviter toute la société finalement à agir. C'est vrai qu'en Nouvelle-Écosse, il y a une situation assez inédite avec des feux de forêt historiques qui malheureusement du fait du changement climatique sont appelés à se multiplier et ça peut créer beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes. Et c'est vraiment important de leur donner des opportunités, des moyens d'exprimer leurs angoisses et puis aussi de les transformer en action. Pour nous, voilà, le concours, c'est une façon de leur donner aussi un petit peu de pouvoir et de leur montrer qu'ils peuvent agir à travers plusieurs choses et l'art en fait partie.
Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. Cette semaine, on remercie tous nos précieux collaborateurs, Tris, et une bonne partie de l'équipe en fait francophone de l'initiative de journalisme local. Donc, Mélissa Woodbury, Daniel Aucoin, Iman Elagi, Marine Autogali, Maxime Jaudoin, Maxime Gauthier et Rose Grézla, qui ont rencontré tant de monde pour nous rapporter bien plus que les éléments que vous entendez ici. Retrouvez-les tous sur canada-info.ca, canada-info.ca. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire. Boris Chassagne à la réalisation et à l'animation. Merci d'avoir été là. Ce ne serait pas pareil sans vous et sans les musiciens qui nous tiennent compagnie tout au long de l'émission. Merci à tout le monde. Ciao.
Sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.